Enjeux de santé, le magazine prévention santé de SILAB.
En partenariat avec l'Agence régionale de la santé et la région Bretagne.
Selon une étude menée par un site européen d'offres d'emploi sur Internet datant de 2009, les 11 238 personnes sondées dans 7 pays d'Europe ont dû se confronter à la question de l'ennui au travail. 32% déclarent absorber au moins 2 heures d'inactivité au travail et par jour. En 2011, ce pourcentage s'accroît à 39%. Le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui ou burn-out syndrome touche ainsi de plus en plus de salariés, vivant mal une situation qui leur échappe, allant jusqu'à provoquer pour la plupart d'entre eux une acédie, ce mal de l'âme s'exprimant par l'ennui. Nous allons tenter d'étudier la question avec Nicole Charpentier, psychologue-thérapeute en situation de vie au travail, actant dans la prévention et l'accompagnement des situations de crise dans les contextes de souffrance en milieu professionnel. Mais avant cela, notre reporter d'Enjeux de santé a tendu son micro à Juliette, ancienne étudiante nous faisant part de son expérience de l'ennui au travail.
Deuxième étage à droite.
Oui.
Bonjour.
C'est bon, on a eu l'électricité aujourd'hui, alors on est parti.
Je m'appelle Juliette et pour le moment je ne fais pas grand chose puisque je viens juste de rentrer d'un mini tour d'Europe de plusieurs mois.
Salut.
Royaume-Uni, Scandinavie et je suis redescendue jusqu'en Hongrie avant de rentrer en France. Avant j'étais en master 2 d'histoire de l'art en histoire et critique des arts et j'ai terminé au mois de juillet. J'ai travaillé pratiquement tout au long de mes études à partir de l'été de la fin de ma première année jusqu'à la fin de mon master et j'ai commencé à travailler à temps presque plein à partir de ma deuxième année. Le premier, c'était de la répartition et de la préparation de commandes dans un journal au service expédition. C'était aussi du chargement de camions et c'était très long parce que dans le domaine de la presse, il faut attendre que ça sorte. Ça a été un avantage dans le sens où quand il faut arriver à 21h45 mais qu'on commence à travailler qu'à 23h, ça permet d'avoir un moment pour par exemple réviser ses cours ou pour se détendre un peu après la journée. Voilà. Ça a aussi un avantage parce que c'est du fini parti, donc c'est, si on finit à 2h, bah on finit à 2h et on est quand même payé jusqu'à 4h30, 5h, mais c'est très long. Le deuxième travail, c'est pour un répartiteur pharmaceutique et ça consiste à préparer des commandes, donc mettre des médicaments dans des boîtes, faire beaucoup de rangements et remplir une machine. Donc ça ne demande pas beaucoup de réflexion, voire pas du tout à certains moments. Alors le troisième... Officiellement un poste de secrétaire de direction au niveau régional, Grand Ouest. Et là, c'était de la replanification de commandes chez un distributeur d'électroménager et autres. Et là, ça se passait pas bien du tout. Je n'avais rien à faire. Le poste a été créé pour l'été. C'était un poste en temps plein. On m'a mise là. Je n'avais pas de chef, pas de collègue. J'étais dans un placard. Concrètement. Et pratiquement tout ce que je planifiais était déplanifié derrière. Et donc on m'en rappelait pour me dire bah mais on comprend pas, on n'a pas été livré. Forcément, si c'est déplanifié, voilà. La plupart du temps, je n'avais rien à replanifier. Donc, ben, fallait que j'attende que 17h arrive. Évidemment, ça m'arrivait d'arriver 5 minutes en avance, 5 minutes en retard. Il s'agissait de relever les mails, de relever les messages téléphoniques. Qui la plupart étaient insultants parce que les gens n'avaient pas été livrés. Ce que je peux comprendre quand on n'a pas de frigo, ce que je peux moins comprendre quand on se fait insulter parce qu'il y a un retard de livraison sur un trampoline, par exemple, et qu'ils ne comprennent pas qu'après 17h on est parti et qu'on a un week-end aussi, parce que quand on revient le lundi et qu'on a 158 appels manqués, ça fait mal. Regarder ce qu'il y a à faire pour la journée, puis commencer à rappeler des gens, planifier des livraisons. J'étais censée faire ça toute la journée, replanifier ce qui avait été annulé pour x ou y raison, par exemple, si c'était pas arrivé sur le site, si le livreur avait raté l'adresse, s'il y avait personne à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'était censé me prendre toute la journée. J'ai pas été formée. Je me suis sentie vraiment perdue et toute seule parce que j'avais personne à qui référer et que je ne savais pas me servir du logiciel, donc il a fallu que je m'auto-forme sur le logiciel. On mange tout seul sur un parking, on n'a personne à qui parler, avec qui échanger sur ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de référent, il n'y a personne.
Est-ce que tu t'attendais à ce genre de choses ?
Non, honnêtement.
T'ennuyais autant ?
Non. J'étais contente d'avoir enfin quelque chose où j'avais des horaires qui étaient de jour, derrière un bureau, et où j'allais pas avoir besoin de courir pour mettre des médicaments dans des boîtes. J'ai quitté mon poste pour ça. Et je regrettais vraiment de plus courir derrière les boîtes.
C'est pas très bon de débrancher le frigo comme ça.
Je suis plutôt du genre à pas aimer rien faire. Si j'avais eu un peu plus de travail, j'aurais mieux aimé un peu plus d'action. Parce que être assis derrière un bureau à attendre, c'est très long. J'avais personne, j'avais rien à faire. Et j'avais beau appeler les chefs des différents secteurs, personne ne me répondait. J'avais pas de mail, j'avais rien. Donc bah... voilà. Au bout d'un moment, quand j'ai réussi à en avoir un au téléphone, je lui ai dit « Bah écoutez, je fais quoi maintenant ? Je rentre chez moi, il est 15h, comment ça se passe ?» Voilà, donc les deux dernières semaines, j'ai passé les trois quarts de mon temps sur Internet. Parce que je n'avais rien à faire. Évidemment, quand j'avais des choses à faire, je les faisais.
Et c'est quelque chose que tu assumais ?
Bah, j'avais personne pour me surveiller, donc c'était facile à assumer. Et j'avais l'aval d'un des chefs, donc c'est différent que quand on prend cette liberté soi-même. Il m'a dit « Tu fais ce que tu veux ». Il y a eu trois vendredis où ils m'ont dit « Tu peux rentrer chez toi » et il était 15 ou 16 heures.
Est-ce que tu avais l'impression de voler ta place ?
Non, mais c'était stressant de rien faire. Parce qu'on a l'impression d'avoir autre chose de mieux à faire. Et surtout quand ce qu'on fait est défait derrière notre dos, on a un peu l'impression de servir à rien. Parce que clairement, c'est pas valorisant. Un travail bien fait, c'est toujours plus valorisant qu'une absence de travail où on s'ennuie. Je pensais retourner là d'où je venais. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Quand mon contrat s'est arrêté, il n'y avait pas de travail, donc ils ont fini par arrêter mon contrat un peu en avance. C'est plus dans ma personnalité. Je préfère quand il y a beaucoup de travail que quand il n'y a pas de travail, parce qu'on s'ennuie. Une soirée ?
To love. C'était le témoignage de Juliette qui s'ennuyait lors de son travail de secrétaire de direction. Alors, elle n'est pas la seule à avoir connu ce phénomène que l'on appelle le burn-out syndrome, le syndrome de l'ennui, dont nous allons parler avec vous, Nicole Charpentier. Vous êtes psychologue-thérapeute en situation de vie au travail, je ne me trompe pas?
Oui, c'est tout à fait ça.
Bien, vous avez également été directrice en ressources humaines, vous actez maintenant dans la prévention et l'accompagnement des situations de crise dans les contextes de souffrance en milieu professionnel. Tout d'abord, quelle est votre première impression sur le vécu de Juliette au sein de son entreprise, que l'on peut qualifier de fantôme, parce que ici on fait face à une situation d'ennui au travail bien précise, qui est celle de l'improductivité due à un manque de tâches à effectuer?
Alors effectivement, cette dimension-là ressort dans ce témoignage, hein, où elle le dit clairement, à tel point qu'en fin de période de contrat, elle a même été jusqu'à passer son temps sur Internet. Mais néanmoins, moi, ce qui m'a un peu interpellée dans ce témoignage, c'est qu'en fait, je n'ai pas ressenti à travers son propos une idée claire de ce qu'elle avait réellement à effectuer. Sa fiche de poste n'était peut-être même pas établie. Donc j'ai déjà un regard sur une dimension confusion. Confusion que l'on retrouve ensuite, puisque dans la description de ce qu'elle a réalisé, les choses sont un peu confuses. Je planifie, on me déplanifie. La tâche prescrite et la tâche réelle sont dans la confusion totale. Qu'attendait-on d'elle ? Je ne suis pas certaine qu'elle en ait eu une idée précise au départ. Et qui plus est encore, au fil du poste, les choses ne sont pas clarifiées davantage. Donc effectivement, ce qui devait arriver arriva, si je puis dire un peu communément, à savoir que la satisfaction au travail n'a pas été au rendez-vous. Je devrais même dire que c'est plutôt une grosse insatisfaction. Elle évoque aussi, à très juste titre, la notion de travail bien fait, qui nous anime tous. Hein. C'est quelque chose d'important en termes de valeur, hein, cette notion de travail bien fait. On a tous à cœur de réaliser un travail de qualité, conforme à ses valeurs, et puis avec ce sentiment d'utilité qui est aussi un des premiers éléments de la reconnaissance. Ce qui, pour elle, n'était pas du tout au rendez-vous, effectivement.
Alors, parlons de cette estime de soi, justement. Il y a plusieurs façons de vivre sa situation au sein d'une entreprise où l'on est improductif, malgré nous. On peut s'en accommoder, mais inévitablement, ce temps vacant nous plonge dans l'introspection. Que fais-je ici? Est-ce que je rends service à ma boîte et à ceux qui m'emploient? Et surtout, est-ce que je rends service à moi-même?
Effectivement, vous évoquez le concept de l'estime de soi, de la confiance en soi. Alors, peut-être encore plus quand on est étudiant, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des repères, de renforcer sa confiance en soi pour, comment dirais-je, s'intégrer à un univers de travail. Elle a été à la recherche du responsable ou du chef, entre guillemets, si je puis dire, qui aurait pu construire ou créer cette relation positive. Là aussi, elle a trouvé porte-close. En tout cas, elle n'a pas trouvé d'interlocuteur qui puisse la rassurer et lui donner des éléments lui permettant d'asseoir cette confiance, mais aussi de construire un travail autour de cela. Et de plus, il y a un paradoxe qui est assez confrontant, puisqu'on lui a laissé une forme d'autonomie et de latitude décisionnelle dans l'organisation de sa journée de travail, qui aurait pu, effectivement, dans un premier temps, donner l'illusion d'avoir un travail intéressant où on peut s'organiser soi-même, donc renforcer sa confiance en elle. Et après quelques jours, semble-t-il, tout s'est effrité. C'est-à-dire que le travail qui aurait pu être intéressant à un moment donné est devenu insipide et sans structure, puisqu'il n'avait pas de fondement. Qui plus est, les clients étaient très insatisfaits. Donc l'insatisfaction des clients, on renvoyait pour elle aussi une image négative qui est venue effectivement confronter cette réalité de la confiance en soi. D'un côté, elle avait la volonté de vouloir bien faire son travail, et de l'autre, le résultat escompté n'était pas celui attendu, parce que la tâche prescrite n'était pas suffisamment claire, me semble-t-il. Elle a parlé de placard à un moment donné, hein, oui, dans son témoignage également. La placardisation est malheureusement un phénomène que l'on peut rencontrer dans certaines sociétés qui sont de grandes maladresses, à mon sens, au niveau managérial, puisque très souvent, c'est un manque de courage de la part des dirigeants de poser un cadre de départ de l'entreprise. Alors, il y a plusieurs éléments qui viennent alimenter ce manque de courage. Ça peut être coûteux, ça peut être conflictuel. Là aussi, de la part des dirigeants, c'est courage fuyons, quoi. C'est on laisse les situations pourrir.
Alors, vis-à-vis des autres, il y a aussi cette honte d'évoquer sa situation d'ennui au travail. Cela peut paraître d'autant plus délicat lorsque l'on est confronté dans son entourage à des personnes qui se retrouvent elles-mêmes confrontées au chômage.
Alors effectivement, en contrepartie du travail qu'elle réalisait ou qu'elle ne réalisait pas, elle avait entre guillemets la chance d'avoir un salaire. Si effectivement vous échangez avec des acteurs qui ne sont pas dans cette même réalité et qui sont en difficulté sur ce marché de l'emploi, on entend assez communément, effectivement, elle a déjà de la chance d'avoir un job, de quoi se plaint-elle ? Et elle pourrait s'en satisfaire.
Donc tu as un travail, sois heureux et tais-toi.
Voilà. Je pense qu'il y a un certain nombre de salariés qui fonctionnent de cette façon-là. Alors là, c'est de l'ennui, mais il y a aussi une dépréciation de soi liée au fait que le travail ne peut pas être réalisé conformément à ce qu'elle attendait et à ce qu'elle souhaite faire. Parce qu'elle aime l'action. Elle dit bien d'ailleurs que dans son poste précédent, elle était très active. Donc là, effectivement, elle est en souffrance de ce fait. Donc, en ce qui concerne la relation de travail aux autres, bah, effectivement, être dans un placard ou être toute seule et ne pas avoir de contact, c'est aussi quand on est animé par cette valeur du plaisir d'être en interaction avec d'autres acteurs, c'est effectivement souffrant également. Alors, est-ce qu'elle avait bien mesuré avant de prendre le poste l'impact de cette dimension-là? Je prends un poste et un contenu qui me plaît, mais quel est l'environnement et le contexte de ce poste? En fait, un poste, ce ne sont pas que des tâches non plus à réaliser. Si le seul critère est l'alimentaire, ce qui est tout à fait noble, hein, et je le conçois et je le comprends, et surtout pour un job d'été, bon ben pourquoi pas? Si on a besoin de satisfaire d'autres valeurs intrinsèques, eh bien il faut effectivement être plus vigilant sur le contenu du poste, sur le contexte, sur ses périphériques, sur l'environnement dans lequel on est. Il me semble que c'est essentiel. Maintenant, travailler sur ses valeurs quand on est étudiant, adulte ou même plus âgé, c'est pas non plus quelque chose de naturel.
Bien sûr.
Il faut prendre le temps de le faire et prendre le temps de s'y concentrer vraiment.
Bien. Il en est un qui avait envie de prendre son temps, de vivre d'amour et de riz complet malgré le fait qu'il s'ennuyait terriblement. C'est Nino Ferrer qui chante son ennui dans une ville où tout est triste.
Dans cette ville où tout est triste, je suis un escargot sinistre, je me recroqueville et m'enquiste, je m'ennuie. Je suis coiffeur, secrétaire, mécanicien, bibliothécaire, j'habite la banlieue ouvrière et je m'ennuie. Je m'ennuie, je voudrais faire autre chose de ma vie, de ma vie. Je m'ennuie, je voudrais savoir comment sortir d'ici. Car il n'y a pas d'échappatoire du mauvais côté de la barrière. Depuis l'école jusqu'au cimetière, je fais ce qu'on me dit. D'HLM en club de vacances, sans but, sans orgueil, sans vaillance, je ne peux que suivre la danse et faire comme si. Je m'ennuie, je voudrais faire autre chose de ma vie, de ma vie. Je m'ennuie, je voudrais savoir comment sortir d'ici. Vivre d'un et de riz complet quelque part où ce serait bien vert, avec des chiens, des vaches, des poules et des mouflets et un peu d'herbe pour les soirs d'hiver, faire des fromages, des tissages, des poteries.
Nous sommes des pierres qui roulent, d'après Nino Ferrer, qui s'ennuyait déjà, lui aussi, en 1982, dans sa chanson « Riz complet ». Cet ennui, il est toujours d'actualité, et il se propage aussi dans la vie professionnelle que nous évoquons avec vous dans cette émission sur l'ennui au travail, Nicole Charpentier.
Oui.
Je le rappelle, psychologue-thérapeute en situation de vie au travail. Vous évoquiez tout à l'heure la vigilance vis-à-vis d'un poste à acquérir, à savoir vérifier son contexte, son environnement, etc. Mais cette vigilance, c'est une notion qui requiert de l'expérience en milieu professionnel. Il paraît difficile pour un jeune travailleur et ou étudiant de décoder une situation de travail avant même de l'avoir commencé.
Non, vous ne le prévoirez pas. Enfin, c'est toute la surprise quand on prend un poste, encore une fois, de voir si en termes d'attendu, il correspond véritablement à ce que l'on a compris et si le contrat était clair avec l'employeur concerné. Il y a toujours quelque chose d'inconnu dans un poste. soit le contenu du contrat, qui peut évoluer en fonction d'un contexte, soit les relations avec les collègues, pour lesquelles on ne peut pas avoir eu l'information, voire l'employeur, de manière tout à fait honnête, ne sait pas qu'il y a une mauvaise ambiance dans l'équipe. Le DRH n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Maintenant, il y a aussi un temps d'adaptation. Qui dit adaptation dit ressources. Donc, moi, j'ai envie d'insister sur deux aspects à ce niveau-là de notre échange, à savoir s'adapter en choisissant un poste et en l'ayant compris le mieux possible, en ayant aussi cette capacité à poser des questions à son employeur et d'avoir un contrat bien précis, mais aussi bien se connaître. Bien se connaître pour savoir ce qui va être source de motivation chez chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est important pour moi dans un travail ? Quels sont mes besoins ? Et ce à quoi je peux dire oui, ce à quoi je peux dire non. Et puis, comme dans un poste, on n'est jamais à 100% satisfait de son poste. On a toujours des tâches, entre guillemets, ingrates, qui nous amènent même à procrastiner souvent. Parce qu'on remet au lendemain ce qu'on n'aime pas faire, voilà. Et donc, quelles sont les ressources dont je dispose pour me recentrer sur ma tâche et continuer à avancer ? Et là, bon, il y a beaucoup de techniques et d'outils. Pour en citer, je pense au coaching, mais je pense à la méditation, je pense à la gestion du stress aussi.
Bien sûr.
Parce que, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans une vie active, on est confronté à des phases où on a des jobs qui nous plaisent moins que d'autres. D'accord. Ou des tâches qui nous plaisent moins que d'autres.
Bien. Alors, prenons maintenant le problème dans l'autre sens. Serait-il juste de penser que les personnes faisant face à des situations d'ennui, eh bien, les provoquent elles-mêmes inconsciemment ?
Oui.
Vous me parliez tout à l'heure en off de la nouvelle génération apte à s'insérer dans le milieu du travail, dont notre amie Juliette fait d'ailleurs partie. Y a-t-il un lien de cause à effet entre des comportements nouveaux de la part de cette génération et une situation d'ennui ?
Votre question est difficile. Un, parce qu'il y a peu d'études sur le sujet. Deux, parce qu'on a beaucoup d'éléments sur les nouvelles générations et leur dimension hyperactive ou la possibilité de passer d'une tâche à l'autre de façon continue, sans se reposer, sans prendre le temps de ne rien faire. Le ne rien faire n'a plus de place dans cette génération, ce qui est une évolution. Mais aujourd'hui, tel que nous sommes organisés dans les entreprises, peut représenter aussi une difficulté à certains moments, c'est évident.
D'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, sous peu, si ce n'est déjà fait, des salariés au travail produisent assez vite pour en arriver à ne plus pouvoir rien faire de la journée et par conséquent à s'ennuyer ?
Tout poste où l'on s'ennuie, enfin où on pourrait être rattrapé par l'ennui, devrait pouvoir se décliner en process tel qu'il puisse être robotisé demain. Donc ce sont des postes qui, on pourrait penser, n'existent plus, enfin ou n'existeront plus. Néanmoins, je pense à un secteur d'activité dans notre région Bretagne, l'agroalimentaire, où il y a quand même des postes sur les chaînes alimentaires qui sont soumis à des tâches très répétitives. Mmh. Il est vrai que soit faire de la découpe ou faire du désossage à longueur de journée, on ne peut pas dire que ce soit un poste très enrichissant au niveau de la réflexion et de la créativité. Néanmoins, les personnes qui l'occupent s'en accommodent. Alors vraisemblablement, elles ont mis en place des stratégies internes, pas relationnelles, mais internes, hein, d'échapper à cet ennui de la répétition. Donc il y a aussi cette dimension d'adaptation, vraisemblablement, qui va devoir et qui va se mettre en place inévitablement, et que les jeunes générations vont être sans doute aussi obligées de, enfin je regarde ça avec intérêt en tout cas, de s'adapter à notre environnement, ou alors innover et créer de nouveaux environnements de travail. Ça j'y crois beaucoup aussi. Il est certain qu'il y a un pan de la génération qui, par peur d'ennui dans les process ou dans les procédures trop astreignantes en entreprise, vont préférer développer leur propre emploi et leurs propres activités. Et on voit arriver de nouvelles stratégies organisationnelles, et ça c'est formidable. Donc oui, peut-être qu'en termes d'évolution sociétale, on pourrait imaginer de nouvelles orientations, de nouveaux axes, et c'est plutôt positif.
Merci à Nicole Charpentier, psychologue thérapeute en situation de vie au travail, d'avoir participé à Enjeux de santé pour nous parler du syndrome de l'ennui au travail, appelé également burn-out. Vous pourrez retrouver ce numéro d'Enjeux de santé sur notre site web www.c-lab.fr.